Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Ce sont des gestes que les femmes ont faits pendant des millénaires sans se poser de questions. Allaiter son bébé, c'est bien sûr naturel jusqu'à que les femmes aient une alternative avec le lait infantile et les biberons. Alors aujourd'hui, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, recommande aux femmes qui le peuvent d'allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors pourquoi cette recommandation? Comment se préparer à l'allaitement? Quels aliments la maman doit-elle manger pour allaiter correctement? Quel bienfait pour le bébé? Faut-il culpabiliser si on ne peut pas ou si on ne veut pas allaiter? Autant de questions que nous allons aborder ce matin avec nos invités, avec nous en direct hein, sur le plateau de la radio africaine, Véronique Boulinguet. Vous êtes sage-femme à la PMI de Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et au téléphone, le docteur Nora Wari. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes pédiatre néonatologie au centre hospitalier de Roubaix. C'est un hôpital labellisé Hôpital Ami des bébés. Merci également, Nora Wari, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, tout d'abord, l'allaitement maternel est l'un des premiers facteurs de protection durable de la santé des enfants. Le programme national Nutrition recommande un allaitement maternel exclusif pendant 6 mois révolus. Mais même de courte durée, l'allaitement reste toujours recommandé. En effet, le lait maternel est un aliment unique, de qualité irremplaçable, et ses caractéristiques ne se retrouvent pas dans les laits infantiles du commerce. Alors je pense qu'on va commencer cette émission en disant qu'il ne faut pas culpabiliser les mamans qui décident de ne pas allaiter. Chacun son choix. Mais c'est important qu'elle sache pourquoi l'allaitement est recommandé, n'est-ce pas, docteur Véronique Boulinguet?
Je suis pas docteur, je suis sage-femme et j'ai longtemps en effet accompagné les mamans à la maternité de Port-Royal pour les inviter à réfléchir sur le choix de l'allaitement maternel. En effet, je pense qu'il n'est jamais question de culpabiliser une maman. On ne donne pas que le lait hein, dans l'allaitement maternel, c'est vraiment un corps à corps avec son enfant, et toutes les femmes ne sont pas prêtes en effet à vivre ce rapprochement très fort entre une maman et son bébé. Parce qu'en fait, dans l'allaitement, le corps réagit aussi, le corps de la mère, réveille un certain nombre de sensations que toute maman n'est pas prête à vivre.
Docteur Nora Wari?
Oui, alors moi je partage tout à fait l'avis de Mme Boulinguet. Donc c'est important que chaque femme respecte le projet qu'elle a en termes d'allaitement. Et nous, en tant que professionnels, on a surtout un devoir d'information. Et après, il est tout à fait important de respecter. Chaque femme a un rapport particulier à son corps. On ne connaît pas l'histoire, toute l'histoire des femmes. Et je pense qu'en effet, cette proximité, elle peut parfois faire remonter des événements antérieurs. Et je pense que l'accompagnement qu'on peut proposer à cette dame, c'est vraiment ce qui est le plus important, quoi. Quel que soit le projet d'alimentation qu'elle va choisir pour son bébé.
Alors docteur, est-ce que vous pouvez... Oui, allez-y.
Je voulais juste dire que parfois, là, on donne vraiment beaucoup d'informations en anténatale. Il y a des mamans qui disent « moi j'hésite » ou « non, j'allaiterai pas ». Et puis, assez de rencontres avec le bébé en salle de naissance, qui parfois est extraordinaire et qui souvent est extraordinaire et qui va souvent être le déclic aussi dans le choix d'allaiter. Et cette première tétée... Elle est très importante. Et si cette rencontre, tout est fait pour que cette rencontre puisse se faire dans les meilleures conditions, et je pense notamment à tout ce travail qui est fait par les équipes qui se sont engagées dans le label Ami des bébés, ça va favoriser cette belle rencontre et souvent favoriser le démarrage de l'allaitement.
Alors docteur, quels sont les bienfaits de l'allaitement sur l'enfant?
Alors au niveau des bienfaits de l'allaitement, donc maintenant ce sont des choses qui ont vraiment été validées par beaucoup, beaucoup d'études scientifiques. Il y a d'abord un des premiers essais, je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est vraiment l'implantation d'une flore intestinale de bonne qualité. Et on sait que cette flore intestinale, elle va être le reflet de la santé à long terme, oui, de l'enfant puis de l'adulte. Hein. Donc on a moins d'infections, que ce soit les gastro-entérites ou alors les infections ORL, les bronchites, les pneumonies, les otites. On a aussi moins d'allergies, donc moins d'asthme, moins d'eczéma.
Oui.
Il y a aussi une diminution de la mort subite, donc probablement par la proximité qui se crée entre la mère et son bébé de par l'allaitement. Et aussi un effet à long terme, donc des patients qui vont être moins obèses, qui vont avoir moins d'hypertension artérielle, moins d'hypercholestérolémie, moins de maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn, par exemple. Et on a aussi démontré que, en termes de développement intellectuel, les enfants allaités avaient des scores qui étaient plus élevés que des enfants qui recevaient des substituts de lait artificiel, en fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les substances qu'on retrouve dans le lait maternel ? Comment expliquer tous ces bienfaits ?
Alors, la composition du lait maternel, c'est vraiment quelque chose de très très vaste. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup encore de composants qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on en a dénombré plus de 200. Alors bon, les plus connus, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce sont vraiment les protéines, les sucres, les graisses. Mais je pense que pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais c'est surtout des enzymes, des acides gras essentiels qui vont jouer dans la formation des membranes au niveau du cerveau. Il y a plein de substances comme des anticorps, des substances des facteurs de croissance, des hormones, oui. Il y a aussi des cellules vivantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un liquide vivant.
Alors maintenant, parlons des bienfaits de l'allaitement sur la mère avec vous, Véronique Boulinguet.
Pour la maman, on sait que chez une femme qui va allaiter, par exemple, jusqu'à au moins les 6 premiers mois, il y a vraiment une incidence sur la diminution du cancer du sein chez ces femmes.
Oui.
Hein, si les femmes allaitaient justement sur une période de moins de 6 mois, on éviterait au moins 20 000 cancers dans le monde, en fait, cancer du sein chez ces mamans. Il y a aussi une incidence qui est un peu moindre, mais sur le cancer des ovaires.
Oui.
Le fait que la maman aussi soit en aménorrhée, c'est-à-dire n'ait plus ses règles pendant les premiers mois de l'allaitement, ça va être des mamans, du coup, qui vont pas perdre de sang, qui vont être moins anémiées, donc... C'est aussi une bonne prévention de l'anémie.
Oui.
Et puis, je pense aussi que toutes ces hormones que la maman sécrète pendant les tétés, que ce soit ocytocine, prolactine, c'est des hormones qui vont lui permettre aussi d'être au plus près des besoins de son enfant. Et donc, ça va aussi favoriser énormément la relation...
Renforcer les liens,
voilà, oui. Mère-enfant.
Et il y a également... On dit que ça permet de maigrir plus rapidement, de retrouver son
Alors,
son
c'est
poids
vrai
initial.
Que la maman enceinte, elle stocke un petit peu des graisses là, autour des hanches et des fesses, etc. Et ces graisses-là vont être mobilisées dans les premières semaines, premiers mois de l'allaitement pour... voilà.
Il y a aussi les économies que l'on fait lorsque
Alors
l'on...
ça, c'est énorme, en effet. Oui. C'est énorme et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, en tous les cas en France. Il y a des pays comme la Norvège qui ont vraiment pris ça en compte au niveau national. Et que ce soit au niveau individuel, les boîtes de lait, ça coûte cher et tout ce qui va aller avec, les biberons, etc. Mais ce sont aussi des enfants, comme vous a dit le docteur Ouari, ce sont des enfants qui vont être moins malades, moins hospitalisés, moins consultés, des parents qui seront moins absents au travail, etc. Et tout ça, à un niveau national, c'est vraiment une économie qui est non négligeable.
Alors, pourquoi recommande-t-on 6 mois d'allaitement ?
Alors, justement, je voulais rebondir là-dessus.
Allez-y.
Parce que on dit que c'est bien d'allaiter... l'OMS et toutes les recommandations nationales, internationales, en effet, prônent un allaitement de 6 mois exclusif. Mais l'allaitement ne s'arrête pas au bout de 6 mois. Toutes ces instances prônent un allaitement qui irait au moins jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais au-delà de 6 mois, on sait que le lait maternel doit être complété par d'autres aliments.
Oui.
Donc on commence la diversification à 6 mois. Mais surtout, si on aime l'allaitement et qu'on peut le poursuivre, il faut le poursuivre. Ça reste toujours vraiment l'aliment de base pour l'enfant.
Ah, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Nora Ouari ?
Alors, c'est vrai que la recommandation de l'OMS, c'est si on peut continuer à allaiter jusque 2 ans. Mais on peut aussi allaiter au-delà. Donc, c'est vrai qu'on rencontre aussi en consultation des mamans qui allaitent au-delà. Donc, on garde bien sûr encore des bénéfices. Et des fois, elles ont un sentiment de culpabilité. Elles n'osent pas dire qu'elles allaitent.
Ouais.
C'est quelque chose qui est aussi important. Et comme dit Mme Boulinguet, si elles aiment ça, c'est aussi bénéfique pour elles que pour le bébé.
Alors,
on n'est pas encore dans une culture d'allaitement de longue durée, comme dans certains pays. Quoi.
Véronique Boulinguet, comme en Afrique par exemple.
Oui, je voulais juste te dire qu'elle est mal comprise, le fait que les femmes, on leur suggère d'allaiter jusqu'à 6 mois. Beaucoup, c'est ce que j'entends moi, hein, régulièrement, beaucoup disent, bon ben, après 6 mois, il faut que j'arrête. Non, il ne faut pas s'arrêter. Enfin,
Il faut vraiment poursuivre si on peut. Oui, excusez-moi.
Alors, nous avons été à la rencontre de femmes, hein, dans les rues de la capitale pour un micro-trottoir sur l'allaitement. On les écoute et on se retrouve juste après.
C'est bien d'allaiter l'enfant, non? Ça fait du bien. Moi, j'aime. Bon, je mélange quand même. Je donne les seins, puis je donne aussi les biberons. Donc. Mais c'est bien, ça fait du bien pour l'enfant aussi, pour que l'enfant soit bien attaché à moi. Donc, je conseille à tout le monde de faire aussi pareil.
J'ai décidé d'arrêter sur 2 mois, et tout, parce que j'ai travaillé avant, c'est tout, et j'ai pas le temps de donner les seins, j'ai arrêté.
Je l'ai allaité que 2 semaines, et après, du coup, j'ai pas pu, parce que je suis étudiante, et c'était super compliqué. L'allaitement, c'est vraiment très, très, très bien pour l'enfant, même pour sa croissance.
La première, non, mais la deuxième, oui. Elle a été juste à 9 mois. Oui.
En fait, pour la première, en fait, comme c'était la première enfant, donc j'avais peur, en fait, et je savais pas.
Oui, il est né pendant 2 mois. Les 2 autres, j'avais pas de lait, donc c'était au biberon.
Alors, vous avez entendu ces femmes. D'abord, peut-être vous, Véronique Boulinguet, quelle est votre réaction après ce micro-trottoir?
Ma réaction, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour ces mamans.
Oui.
Hein, certaines, une dit « j'avais pas de lait pour les deuxième et troisième enfants ». Bon, c'est exceptionnel qu'une femme ne puisse pas produire du lait pour ses bébés, d'autant plus qu'elle en avait déjà pour le premier. Donc on voit bien qu'il y avait un problème d'accompagnement pour cette maman. Une autre a dû arrêter assez vite, peut-être qu'il y avait moyen, je ne sais pas, hein, de l'accompagner pour qu'elle puisse continuer tout en faisant un allaitement mixte, mais avec des conseils ajustés. Enfin, oui. Voilà, je pense que l'accompagnement, en tous les cas, chez nous en France, c'est quand même... Enfin, les femmes ont besoin d'être accompagnées parce qu'on n'est pas dans une culture de l'allaitement. Voilà.
Docteur, vous voulez peut-être réagir?
Oui, alors moi j'ai noté que la personne qui avait commencé d'emblée un allaitement mixte, peut-être qu'elle n'avait pas reçu les informations nécessaires pour démarrer son allaitement. Actuellement, on ne peut plus dire que c'est complètement anodin de commencer tout de suite un allaitement mixte.
Pourquoi, docteur?
Il y a d'une part... Oui. Alors d'une part, en mettant du lait artificiel qui est du lait de vache, des fois il y a une méconnaissance hein, sur les substituts du lait maternel. C'est du lait de vache. Il y a encore des gens qui pensent que c'est du lait maternel. Non, c'est du lait de vache. Et donc il y a quand même des effets indésirables à donner du lait de vache d'emblée. D'une part, on modifie la flore intestinale de l'enfant. On peut provoquer des intolérances aux protéines du lait de vache. Hein. Oui. Et puis on peut diminuer la confiance de la maman dans sa capacité à produire du lait. Donc je pense qu'il y a l'accompagnement aussi bien à la maternité, mais également avant la naissance, hein, pour que la maman elle prenne vraiment ses décisions de façon la plus éclairée possible.
Parce qu'en fait, allez-y, terminez.
On avait une maman qui nous disait j'ai peur. Donc là, je pense que on se dit que nous, en tant que soignants, on doit vraiment faire en sorte que la maman, elle ait plus cette peur, mais qu'elle soit vraiment accompagnée, qu'elle se sente soutenue dans son projet, quel qu'il soit. Et je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de faire ce relais à la sortie de maternité.
Oui.
C'est-à-dire que les mamans, en sortant de la maternité, elles puissent savoir quelles personnes elles vont pouvoir contacter si elles rencontrent une difficulté dans leur projet d'allaitement maternel, quel qu'il soit. Je veux dire, la maman qui a décidé d'allaiter 2 semaines, si au bout d'une semaine elle rencontre une difficulté, elle doit pouvoir se tourner vers des professionnels formés qui vont pouvoir lui proposer une consultation avec une évaluation de la tétée. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'améliorer en France.
Oui, vous vouliez dire quelque chose, Véronique?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut vraiment que la maman... Les séjours en maternité sont de plus en plus courts. Il faut vraiment que la maman ait les coordonnées de professionnels, comme les centres de PMI, les puéricultrices aussi de PMI qui peuvent venir au domicile les accompagner. Enfin, il y a quand même maintenant beaucoup de professionnels qui sont de plus en plus formés au niveau de l'allaitement maternel et qui peuvent vraiment, vraiment aider à dépasser les difficultés des premiers jours.
Au téléphone, c'est une auditrice, c'est Elodie. Bonjour Elodie, merci de nous rejoindre.
Oui, bonjour.
Allez-y,
bonjour,
nous vous écoutons pour votre question.
Oui, alors j'ai une question. En fait, j'ai accouché il y a 5 ans, j'ai une petite fille. J'ai repris le travail au bout de 3 mois et j'étais en allaitement mixte. Mais au bout de, on va dire, 2 mois après la reprise du travail, elle ne voulait plus du lait maternel. Et du coup, elle est passée complètement en lait artificiel. Donc là, je l'ai accouchée dans 2 mois à peu près. ce sera sur le même schéma, je vais reprendre le travail après le congé maternité, et je voudrais savoir ce que je dois faire pour que je puisse continuer en fait l'allaitement maternel, et que ça ne se reproduise pas, quoi, que du coup mon enfant ne veut plus du lait maternel et passe uniquement en lait mixte. Et je dois savoir ce que je dois faire parce que c'était vraiment radical. Elle en voulait de moins en moins. Et puis au final, elle n'a plus accepté du tout le lait maternel.
Véronique Boulanger. Quand vous dites qu'elle n'acceptait plus du tout le lait maternel, elle n'acceptait plus de téter au sein, c'est ça?
Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Et quand je lui donnais le biberon, par contre, elle le prenait.
Et est-ce que, en parallèle, vous tiriez un petit peu votre lait pour entretenir la lactation?
Donc peut-être que la lactation. C'est-à-dire que la tétée du matin, c'était au sein, on va dire, avant de partir au travail. Oui. Et le soir, c'était aussi au sein. Et dans la journée, c'était des biberons, de lait artificiel. Mmh. Et au final, en fait, de moins en moins, quand je lui donnais le matin, elle acceptait de le prendre. Et le soir, pareil, jusqu'à ce qu'elle n'en veuille plus du tout, quoi.
D'accord.
En fait, je ne tirais pas mon lait, effectivement, non.
Et est-ce que le week-end, par exemple, vous donniez plus de tétés?
Non, ça marchait pas, ça fonctionnait pas spécialement. C'est-à-dire que, comme j'étais à la maison, moi, naturellement, je donnais plutôt le sein. Oui. Mais elle n'en voulait pas plus, quoi. Et progressivement, elle n'en a plus voulu.
Probablement qu'il y avait aussi une baisse de lactation et que surtout votre petite, elle a compris qu'avec le biberon, la satiété arrivait très vite parce que le débit de lait est beaucoup plus rapide et que pouf, il y a une impression de satiété qui est beaucoup plus rapide. Mmh. Après, c'est tellement dépendant d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui vont continuer à téter quand même malgré tout plus longtemps. Et à chaque fois, c'est une histoire unique. Chaque naissance et chaque bébé réagit de manière différente. Mais je pense que peut-être la prochaine naissance, si vous êtes amené à reprendre le travail aussi au bout de 2 mois, essayez le week-end de donner peut-être un peu plus de tétée. Oui. Pour essayer de relancer un petit peu plus la lactation à chaque fois, parce que sinon, c'est vrai que la lactation finit par se tarir assez rapidement aussi. Et du coup, peut-être que votre petite, elle a opté.
Enfin, très tôt, je l'ai mise en fait en mix parce qu'on m'a dit à la maternité qu'elle avait sûrement pas assez avec mon lait.
Ah.
Donc très tôt, en fait, j'étais en mixte quoi, dès le début. Quoi.
D'accord. Alors là, maintenant que vous vous rapprochez de l'accouchement, essayez de repérer dans votre quartier des personnes ressources un petit peu pour vous aider justement à bien lancer votre lactation pour ce deuxième enfant.
Oui.
Hein, parce que je pense que peut-être vous avez manqué un peu d'aide au démarrage, mais l'expérience que vous avez eue avec votre premier enfant, elle va vous aider justement à trouver peut-être de belles ressources autour de vous pour ce deuxième enfant.
D'accord, très bien.
Merci en tout cas, Élodie.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Merci, à très bientôt. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait donner également aux papas pour accompagner leur femme pendant cette période d'allaitement? Peut-être vous, docteur, vous avez peut-être envie de répondre.
Alors, c'est vrai que pour cette première période... où la maman va commencer à démarrer son allaitement, il y a la découverte du bébé. Donc vraiment, bon après, ça dépend toujours un petit peu des contextes familiaux qui peuvent être un peu différents. Mais cette maman, ça va être un tel chamboulement que la présence du papa à ses côtés, pour la soutenir, je pense que c'est vraiment le soutien qui est important. Voilà, il faut vraiment qu'au niveau des maternités, on arrive à adapter un petit peu notre architecture pour que les papas se sentent aussi très à l'aise dans les maternités. Donc, nous, par exemple, à Roubaix, on a installé dans toutes les chambres des banquettes pour que les papas puissent passer la nuit, s'ils le souhaitent, auprès de leur maman, de leur femme, pardon. Donc ensuite, au niveau de l'allaitement, c'est vrai qu'on entend souvent, mais moi, je voudrais éventuellement passer au biberon pour que le papa puisse m'aider. Mais je veux dire, il y a tellement de choses que ces papas vont pouvoir faire à côté, c'est-à-dire tout le reste. La maman, elle va être tellement centrée au départ sur les soins à donner à son bébé que si le papa peut s'occuper de toute la logistique, par exemple, conduire les enfants à l'école, s'occuper des repas, s'occuper un peu de l'organisation dans la maison, ça va être quelque chose d'important. Mais je trouve que vraiment, c'est le soutien et veiller à ce que cette maman elle garde confiance en elle au cours du démarrage de l'allaitement. Alors, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand on donne des explications. Donc moi, je veille vraiment à ce que le papa soit présent quand j'explique, puisque la maman, elle a vraiment un contexte émotionnel particulier. Et des fois, elle n'entend pas forcément les informations qu'on peut lui donner. Mais si le papa, il est à côté, il va pouvoir reprendre avec elle et lui redonner confiance en disant, bah, tu vois, ils t'ont expliqué que ça allait se mettre en route, qu'il fallait mettre le bébé vraiment quand il était dans un éveil calme. Donc, on a vraiment un rôle important du soutien de la famille. Je dirais pas seulement du papa aussi, de la famille un petit peu plus élargie qui va être autour de cette maman.
Alors, il y a souvent des questions hein, qui reviennent. Pourquoi les seins peuvent-ils être tendus et inconfortables? Moi, je me souviens que j'avais beaucoup souffert pendant cette période. Au début, les douleurs, les crevasses. Quelles sont les recommandations que vous donnez aux mamans qui traversent quand même ces périodes qui sont assez compliquées, surtout lorsque c'est le premier enfant?
Oui, alors, moi, je pense que le plus important à la maternité, c'est de demander l'aide d'un soignant pour les premières mises au sein.
Oui.
C'est-à-dire que les crevasses sont souvent dues à un mauvais positionnement du bébé au sein, avec une ouverture de bouche qui est pas satisfaisante. Et donc, le fait de pouvoir observer une tétée, on va pouvoir reprendre un petit peu la position et essayer de l'améliorer pour qu'il y ait une disparition de ces douleurs. Donc, la première montée de lait, la montée de lait qui est physiologique avec cette tension mammaire, si on a un bébé qui tète efficacement, ça doit être quelque chose qui doit être de courte durée. Et surtout, la douleur, un allaitement qui est marqué par des douleurs chroniques, doit faire appel à un avis d'une personne formée en allaitement maternel, parce qu'il y a un problème derrière, en fait. Alors, un allaitement ne doit pas faire mal, et je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment demander une consultation par une spécialiste en allaitement ou un spécialiste, et faire observer une tétée.
Véronique,
les mamans ne doivent pas rester seules avec ces difficultés.
Véronique Boulinguet, alors certaines femmes ont peur également d'abîmer leur sein avec l'allaitement. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes?
Je leur dis que l'allaitement, normalement, ça n'abîme pas les seins. En fait, ce qui va changer les seins, déjà, c'est la grossesse, comme le corps de toute femme va changer au moment d'une grossesse. Et les femmes le ressentent bien, en général, très, très vite. Parfois, le premier signe, c'est comme ça qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Il y a vraiment une tension mammaire dès le début de la grossesse. Et après, si on conduit bien son allaitement, c'est-à-dire qu'on évite justement toutes ces périodes de tension extrême avec des engorgements à répétition ou autre, non, il n'y a pas de raison, ça ne déforme pas les seins. Par contre, c'est vrai qu'au moment du sevrage, on se retrouve avec des seins souvent, on a l'impression qu'ils sont parfois un petit peu plus petits parce que tout ce tissu glandulaire qui a permis de fabriquer le lait va diminuer, va se détruire petit à petit. Et il faut plusieurs mois pour que les seins reprennent la forme qu'ils avaient avant. Alors, certaines femmes vont retrouver des seins quasi identiques. Pour d'autres, en effet, les seins seront différents, comme le corps est aussi différent après une maternité.
Alors, docteur, il est important aussi de rappeler qu'il ne faut pas boire et ne pas fumer pendant l'allaitement. Alors, pourquoi? Expliquez-nous.
Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'alcool, on a vraiment quasiment la même alcoolémie, le même taux d'alcool dans le lait maternel que dans le sang de la maman. Donc ça, pour l'alcool, il y a vraiment une tolérance zéro, d'une part quand on est enceinte et quand on allait.
Oui.
D'accord. Alors pour la cigarette, c'est vrai que l'idéal, c'est de s'arrêter de fumer. Bon, après, ça peut être très, très difficile pour certaines mamans. Et moi, personnellement, j'explique aux mamans qu'on a quand même des bienfaits de l'allaitement maternel quand on fume.
Oui.
Et que si c'est le souhait de la maman, on peut tout à fait fumer et allaiter. Et dans ce cas-là, si c'est possible, je demande aux mamans de fumer après des mises au sein.
Véronique Boulinguet?
Oui, c'est pareil. Enfin, je dis exactement la même chose. Il y a tels bienfaits à allaiter son petit que même si la maman fume quelques cigarettes par jour, on va quand même lui conseiller, bien sûr, d'allaiter son enfant, mais avec des conseils de ne pas fumer à proximité de son bébé, fumer après la tétée, etc.
Alors, docteur Nora Wari, l'hôpital dans lequel vous travaillez, le centre hospitalier de Roubaix, est labellisé Hôpital Ami des bébés. C'est quoi ce label, en quelques mots?
Alors, ce label, c'est un projet de l'UNICEF et de l'OMS pour accompagner, pour aider les maternités à implanter un accompagnement maximum autour de la bientraitance que ce soit avant l'accouchement, pendant l'accouchement, pendant le séjour en suite de naissance. Il faut savoir que sur le label, cette initiative Hôpital Ami des Bébés, beaucoup pensent que c'est tourné que sur l'allaitement. Or, en fait, c'est vraiment tourné sur l'enfant, sa famille, la physiologie, oui. l'accompagnement, que ce soit de l'allaitement, mais également l'accompagnement des mamans qui vont nourrir au biberon. Donc, on nous demande de remplir des conditions, donc de former les équipes, d'informer les mamans. Et ensuite, on a des évaluateurs qui vont se rendre dans les maternités, qui vont interroger des professionnels, mais surtout des mamans, pour oui. vérifier les informations qu'elles ont reçues. Et à terme, il y aura un rapport d'évaluation qui va être validé par IHAB France, et pour vérifier qu'au moins 80% des conditions, enfin des réponses répondent aux conditions de ce label oui. et décernent le label. Donc pour les familles, le fait d'accoucher dans une maternité IHAB, c'est accoucher dans une maternité qui a un label qualité d'accompagnement des familles.
Alors, quelques contacts utiles, retrouvez le guide de l'allaitement maternel sur le site de Santé Publique France que vous pouvez télécharger. Et puis, Véronique Boulinguet, vous avez publié aux éditions Le Cavalier Bleu un ouvrage pour casser les idées reçues sur l'allaitement maternel. Ça s'appelle Allaiter, pourquoi, comment, et c'est disponible en librairie. Un tout dernier mot, il reste 40 secondes, Véronique Boulinguet.
Alors, Je suggère à toutes les mamans qui se sentent très seules, qui allaitent leurs petits et qui parfois se sentent très seules, surtout restez pas seules. Il y a beaucoup d'associations de soutien à l'allaitement maternel. Et puis il y a aussi les centres de PMI où il y a des réunions qui sont organisées pour les mamans, pour échanger leur expérience, pour être soutenues par les professionnels. Donc voilà, c'est un beau moment, mais c'est une expérience extraordinaire d'allaiter. Mais voilà, c'est bien aussi de le partager avec d'autres mamans, d'autres parents.
Merci beaucoup mesdames d'avoir répondu à notre invitation. Il est 9h56, la suite d'Ambiance Africa, c'est juste après la pause. Restez avec nous.